tous. Voilà, on a entamé la semaine dernière une série sur le travail que du coup je vais faire en trois fois. Donc là c'est la deuxième aujourd'hui. Est-ce que vous vous rappelez un peu avant du coup que je continue ce que du coup, qu'est-ce que vous avez retenu? S'il y a une chose que vous avez pu retenir la semaine dernière? Interro surprise. Oui, tout à fait. Anita, du coup, dit que le travail était bon et que Dieu a travaillé et que du coup, vu qu'il nous a fait à son image, il nous appelle aussi à travailler. Autre chose? Oui, c'est une vocation. Oui, Charles. Ouais, c'était pas un mal nécessaire. Il y avait un peu une vérité, ouais, dans ce sens-là. Même si c'était dur, finalement, il faut changer notre regard sur notre travail et le voir, ouais, comme le disait Juliette, comme une vocation. Dieu nous appelle. Il nous laisse pas une option. Il nous appelle à travailler comme lui a travaillé. Bon, c'est bien, vous avez bien suivi. Tu peux mettre, du coup, Audrey, la diapo. Voilà, on a vu l'importance du travail la semaine dernière. Vous avez bien rappelé les différents points et la vocation, on a vu à travers la Genèse et après dans le Nouveau Testament, comment Dieu parle du travail, comment il l'a institué avant même la chute, et après la pénibilité liée au travail, et malgré la pénibilité et l'entrée du péché dans le monde, Dieu n'a pas supprimé le travail, bien au contraire, il a maintenu cette vocation à l'homme de travailler. Face à cela, dans notre monde, voilà, on est tous influencés, et chrétiens autant que nous sommes influencés aussi. Il y a dans le travail deux manières de voir le travail, deux extrêmes. Il n'y a pas que ça, hein. Mais on va parler notamment de deux extrêmes, et voilà, les extrêmes, ce n'est jamais bon. La parole de Dieu nous appelle à l'équilibre à chaque fois. Et nous allons voir du coup, d'un côté la paresse lié au travail, donc je ne vais pas aborder la paresse dans sa globalité, je pourrais en faire une thématique entière, mais la paresse liée au travail, la recherche quelque part du moindre effort, la recherche voire même du plaisir au-delà même du travail, c'est un peu dans la pensée de notre monde. Et puis de l'autre, le travail excessif, c'est ce qu'on appelle, alors il y a un terme d'ailleurs maintenant, l'ergolatrie, voilà, l'addiction au travail. Donc il y a ces deux extrêmes que nous allons voir, et nous allons voir du coup ce matin ce que la Bible en dit. Et si la paresse, voilà, là-dessus, est condamnable, et la Bible en tout cas, voilà, je vous fais pas de surprise, elle va condamner la paresse, elle est même mortelle, ça va être le terme ici hébreu qui va être employé, le travail, la surcharge de travail, il est tout autant. Ce n'est pas moins pire, c'est tout aussi une dérive que la paresse. À nous du coup de voir, et nous allons nous pencher ce matin sur ce que la Bible dit. On va commencer du coup par la paresse, et je vous propose du coup ici deux textes dans le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes qui va beaucoup parler, le sage, donc c'est celui qui a écrit le livre des Proverbes, le sage qui va beaucoup parler ici de travail et à l'opposé du coup de paresse. Proverbes 6, versets 6 à 11. « Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi. » Observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni surveillant, ni contremaître, ni chef. Durant l'été, elle prépare sa nourriture au temps de la moisson. Elle amasse ses provisions. Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché? Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever? Et Proverbes 24, versets 30 à 34. J'ai passé près du champ d'un paresseux et le long du vignoble d'un homme sans courage. Et voici que les orties avaient tout envahi. Les ronces recouvraient le sol et le muret de pierre était en ruine. En voyant cela, je me suis mis à réfléchir et j'ai tiré une leçon de ce que j'ai observé. Je vais juste faire un petit somme, dis-tu, juste un peu m'assoupir, rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. Amen. J'aurais pu prendre d'autres textes. Il y a tellement de textes qui parlent de la paresse et du danger de la paresse. Et dans nos sociétés aujourd'hui, voilà, avant de commencer à parler de la paresse, je voudrais quand même un peu, histoire quand même, c'est bien de clarifier les propos. Dans nos sociétés aujourd'hui, par rapport au travail, ça ne veut pas dire que du coup tous ceux qui ne travaillent pas sont paresseux. Dans notre société aujourd'hui, on peut être motivé, très motivé, et avoir du mal à trouver un travail. Et du coup, ici, quand j'emploie le terme de paresse, je ne parle pas de ces personnes-là qui sont dans cette optique-là et qui sont en recherche de travail. Du coup, ici, je ne voudrais pas culpabiliser qui que ce soit. Non, bien au contraire, il s'agit ici de nous soutenir les uns et les autres. Par contre, il s'agit ici de la paresse de celui qui ne veut pas chercher de travail, peu importe les raisons. J'avais parlé la semaine dernière de celui qui ne cherche pas de travail parce qu'il y a les aides de l'État. Donc il vit sur le dos des autres. On avait parlé un peu, j'avais développé sur l'épître de Thessaloniciens, où Paul va parler d'ailleurs de cela. Et, ou sinon de celui qui veut, voilà, qui travaille, ou qui va chercher un travail qui nécessite le moins d'efforts possible. Un travail quelque part un peu idéalisé, et on a vu la semaine dernière que le travail, il est pénible. Et que du coup, il s'agit ici de se mettre à l'heure, de ne pas avoir des idées utopiques, et du coup, quelque part, de se trouver des excuses. Il faut être réaliste. Un exemple très pratique, vous allez rigoler encore. Moi, j'aimerais bien aller sur Mars. Tant que j'irai pas sur Mars, je ne travaillerai pas. Bah, je veux dire, voilà, je pose... Mais il s'agit ici d'être en réalité dans notre monde actuel. Et Dieu nous appelle à travailler. Il nous dit aussi que le travail, il est difficile, parce qu'il y a le péché qui est là. Et il nous dit pas, du coup, bah, vu qu'il y a le péché, tu es mis à part et tu ne feras rien. Non, pas du tout. La paresse, du coup, peut se cacher à travers différents, de manière assez subtile. Et on peut se trouver beaucoup d'excuses pour fuir la vocation que Dieu, et on l'a vu la semaine dernière, nous appelle à vivre. Il est question ici dans ce texte de la fourmi. Pour moi, qui symbolise ici le travail et la prévoyance, parce que la fourmi, elle semble toujours en activité. Elle travaille avec les autres, elle est active. Elle prépare les provisions durant l'été, pour l'hiver, et même en hiver, elle travaille. Elles sont toujours en train de se déplacer, elles ne s'arrêtent que pour se charger de fardeaux, ou pour les décharger, ou pour échanger des informations avec d'autres fourmis. Et c'est cette activité incessante qui est le premier point de comparaison, et c'est pour cela d'ailleurs que le sage parle de la fourmi. C'est quelque part que nous devenions zélés comme la fourmi au travail. Que le travail soit notre motif. Que quelque part, voilà, on se laisse pas aller à la recherche à tout prix du plaisir. Et même si le plaisir ici, je ne dis pas qu'il est mauvais, hein. Rien n'est mauvais. Par contre, ce qui est mauvais, c'est quand on inverse la priorité des choses. Et ici, il s'agit de se mettre à l'œuvre. Le paresseux ici, dans ce texte, refuse de travailler et voit ses désirs toujours insatisfaits. Il va se réveiller tout d'un coup pour s'apercevoir, et le texte le dit bien, que la pauvreté est là, comme un rôdeur, et qu'il est impossible de la déloger. Pourquoi ? Parce qu'il a refusé l'effort. Il a refusé de faire les efforts. Et du coup, il connaîtra la misère, c'est ce que dit le texte, c'est ce que dit ici le sage. Le désordre de sa vie est devenu irréversible. Puisqu'une fois qu'on s'est habitué à ne pas faire d'efforts, c'est difficile de pouvoir retrouver un rythme. Tout est en ruine. Et tout s'est passé aussi subtilement et aussi agréablement que le fait de s'endormir. Sauf qu'au réveil, c'est la misère qui est présente. Le travail que Dieu nous demande d'effectuer fait partie du sens de la vie. Et il doit être ici notre motivation, une de nos motivations. Le sage va dire ceci dans le texte, « Je me suis mis à réfléchir et j'ai tiré une leçon de ce que j'ai observé. » Le sage, lui, il va observer, il va apprendre. Il sait que le paresseux, ce n'est pas un monstre, ce n'est pas un méchant, ce n'est pas... Mais que c'est juste un homme ordinaire qui s'est trouvé trop d'excuses et qui a trop souvent remis au lendemain. Imaginez, et je pense que pour nous c'est peut-être assez facile dans notre région, que vous vous promenez... Alors ici, il y a des vignobles partout. Hein. Allez, je vais prendre Chassé. À Chassé, il y a plein de vignobles. Vous promenez à Chassé et vous tombez du coup sur un vignoble entouré de ronces, d'orties, avec un muret en ruine. Et là, vous vous renseignez en disant, mais auprès des voisins, est-ce que le propriétaire, il est mort ? Et le voisin, il vous dit, non. Et du coup, vous posez la question, mais comment ça se fait que sa propriété soit dans un tel état ? En fait, on se posera tous la question. Et ce serait honteux de savoir finalement que il aurait même préféré qu'il soit mort plutôt qu'il soit vivant et qu'on dise finalement de cet homme qu'il a un poil dans la main. Et que du coup, tout ce qui l'entoure, finalement, tombe en ruine. L'image qui est employée par le sage est assez réaliste. Et finalement, cette ruine-là, cet homme, il ne l'a pas voulu. Personne ne veut de la ruine. Mais en ne faisant rien, c'est ce qui arrive. Cette histoire, elle est assez terrible, puisqu'on voit ici un homme qui possède ce dont rêvent beaucoup de personnes. En tout cas, à l'époque, ici, au temps de l'Ancien Testament, il possède une ferme, un domaine, il peut même cultiver ce qu'il veut, il a même un vignoble, qui peut lui fournir du bon vin, entouré d'un muret qui le protège, des renards et des rôdeurs. Or, il laisse toutes ses richesses à l'abandon. Pourquoi ? Parce qu'il est paresseux. Et ce thème, d'ailleurs, va revenir plusieurs fois dans le livre des Proverbes. En ne travaillant pas, non seulement cet homme n'a pas de quoi manger pour lui-même, mais en plus, il ne peut pas aider ceux qui sont dans le besoin, comme Dieu nous appelle à le faire. Il est un piège pour lui-même, mais aussi pour les autres. Certaines tendances actuelles dans notre monde pensent qu'il faut se laisser, un peu aller, il faut s'écouter soi-même pour être épanoui et écouter toutes les tendances qui sont au fond de nous. Et cette mentalité n'est pas du tout biblique. Se laisser aller, faire ce que l'on désire uniquement, telle n'est pas la leçon d'ailleurs que nous donne la nature. Si vous laissez tout pousser spontanément dans votre jardin, vous allez voir que vous n'aurez pas tout ce que vous voulez. Sauf si votre jardin il est un peu bizarre, mais en ce cas-là, il faudra appeler un botaniste ou quelqu'un. Mais dans la nature, si on laisse pousser tout ce que l'on veut, on dit « allez, on va laisser pousser, on va voir ce que ça donne », vous aurez peut-être des choses bonnes, mais vous aurez sûrement, et même beaucoup plus, de mauvaises herbes. Dans la vie, c'est la même chose. Jésus, d'ailleurs, va signaler cela de manière assez réaliste. Il va dire que c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui est mauvais. C'est pas ce qui rentre, c'est ce qui sort du cœur de l'homme. Donc si on s'écoute, on risque ici d'aller dans beaucoup de tracas, en ne veillant pas finalement ici à mettre notre vie en règle selon ce que Dieu veut. Dieu nous aide, et il veut nous aider dans cette recherche de travail, mais surtout à ne pas tomber dans la paresse. À ne pas tomber finalement dans le laisser-aller, à ne pas laisser les mauvaises herbes provenant de notre nature finalement venir éradiquer petit à petit notre vie, comme cette ruine qui arrive petit à petit. Et telle est d'ailleurs, c'est la leçon d'ailleurs de tout le livre des Proverbes. À la fin du livre des Proverbes, je ne sais pas si vous connaissez, il y a cette femme, je vous invite à lire, c'est le dernier chapitre des Proverbes, il conclut bien le sage, par cette femme vaillante. Il s'agit ici de la femme vaillante. Et sa qualité principale, il est dit ceci, c'est le travail. Elle va parler du travail d'ailleurs comme ce précieux trésor de l'homme. Elle va pas dire Dieu est mon trésor. Ça, le sage, il le sait. Mais en fait, en regardant sa propre vie, il va dire voilà, ce travail, c'est le précieux trésor de l'homme que Dieu a donné. Et que Dieu a donné à chaque homme ici sur terre comme occupation, comme vocation. On a vu la semaine dernière, et en première partie, et dans le Nouveau Testament, Paul va parler de cela. Il va parler un peu par rapport à l'église de Thessalonique, où il y a des chrétiens qui sont paresseux, et il va leur adresser une lettre, première épître de Thessaloniciens, en les encourageant à travailler, à ne pas dépendre des autres. Vous vous rappelez du texte ? Je vous invite du coup à regarder un Thessalonicien. Et puis du coup, il va les encourager fortement à ne pas tomber dans l'oisiveté. Mais les Thessaloniciens, c'est des hommes, ils n'écoutent pas. Du coup, deuxième épître, Paul écrit une deuxième lettre. Et cette fois-ci, il va être un peu plus ferme. Et j'ai mis le texte de Thessaloniciens, chapitre 3, versets 10 à 15. « Lorsque nous étions chez vous, nous vous avons donné cette recommandation. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée. Ils ne travaillent pas et se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces personnes-là à suivre la recommandation suivante. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans la paix et gagnez vous-même votre pain. Et vous, frères, ne vous lassez pas de faire ce qui est bien. Si quelqu'un ne se conforme pas aux instructions de cette lettre, signalez-le à tous et rompez toute relation avec lui pour qu'il en éprouve de la honte. Toutefois, ne le traitez pas en ennemi, reprenez-le comme un frère. Paul ici va être un peu plus ferme, pourquoi ? Parce que la paresse, c'est épidémique. Et ça peut vite contaminer tout le monde. Voir quelqu'un qui se la coule douce, celui qui manque de sagesse peut se dire « mais moi aussi je vais faire pareil ». Et au final, du coup, comme le dit le proverbe, c'est la misère qui s'introduit. Et dans l'église de Jésus-Christ, ce n'était pas possible. Paul, du coup, va reprendre quand même assez fermement, ici les chrétiens, au nom du Seigneur Jésus-Christ, celui qui a institué ici le travail, qui lui-même d'ailleurs a travaillé. Ça va ? La paresse. Dans l'autre côté du coup de la paresse, on a ce qu'on appelle du coup l'ergolatrie, l'addiction au travail. Il y a même un terme, alors j'ai découvert ça, le workoholisme. Donc, c'est quelque part être un peu, c'est l'addiction au travail. Hein, on peut pas se passer de notre travail. Et là-dessus aussi, il y a des mises en garde. J'ai pris deux textes. Il y en a d'autres aussi, mais j'en ai pris deux. Dans Luc chapitre 12 versets 16 à 21 et Matthieu 16. Verset 26, j'ai mis les textes. Il leur dit, c'est Jésus qui parle. Il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait, se disant, que vais-je faire? Car je n'ai pas assez de place pour recueillir mes récoltes. Voici, dit-il, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes granges, j'en construirai de plus grandes, j'y recueillerai tout mon blé et mes biens. Et alors je pourrais me dire, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi. Mange, bois et fais la fête. Mais Dieu lui dit, homme déraisonnable, cette nuit même ta vie te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela ira-t-il? Ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et dans Matthieu, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Travailler, on vient de le dire, fait partie de notre vocation. Mais ce n'est pas ici toute notre vocation. Le chrétien, il n'a pas comme unique vocation le travail. L'appel que Dieu nous adresse va au-delà de notre travail et nous conduit d'ailleurs à jeter un autre regard sur nos autres activités. Le travail faisant partie d'une de nos vocations. Et Dieu veut changer aussi notre regard sur la réussite, sur l'importance de l'autre, sur le sens à donner à nos activités, à notre vie. Pour ceux qui n'ont pas le Seigneur, bien sûr que le travail, du coup, a une importance primordiale. À travers le travail, il y a le symbole de la réussite, il y a beaucoup ici de symboles, et puis on court vers la gloire, on est satisfait aussi de ce que l'on produit, et c'est pas mauvais. Mais ici, il y a un déséquilibre. En tant que chrétien, il s'agit pour nous ici de mettre le travail à sa bonne place. Que le travail ici ne puisse pas non plus venir nous dévorer de l'intérieur. On vit dans une société aussi, et on a vu un extrême avec la recherche des loisirs et la paresse, mais aussi un autre extrême où il y a l'obsession pour notre travail et notre carrière. J'avais fait l'année dernière une prédication sur le repos, je ne sais pas si vous vous rappelez, et j'avais mis qu'on travaille de moins en moins. Et c'est bien, il y a la technologie qui vient aider ça, puis il y a aussi les acquis sociaux qui font qu'on travaille moins qu'il y a 30 ans, 50 ans. Et pourtant, la charge mentale de chacun de nous est plus élevée qu'avant. C'est-à-dire que le fait d'avoir eu les chances, le progrès technologique de moins travailler, a pas fait que l'homme a moins travaillé. Bien au contraire. Il s'est dit, je peux en faire encore plus. Mais il s'agit ici d'être équilibré, de ne pas travailler comme un acharné, de bien travailler, je ne dis pas qu'il faut mal travailler, mais de ne pas en faire ici le centre de nos vies. Quand nous sommes censés être en vacances, nos ordinateurs ou notre esprit doit être en vacances, il ne doit pas être au travail. Et il s'agit ici de savoir bien couper. De ne pas du coup amener le travail à la maison, pour que finalement ce travail finalement, devienne une idole et qu'il vienne prendre la place et vienne abîmer les relations dans la famille, avec nos enfants, avec notre conjoint et avec tous ceux qui nous entourent. Il y a quelques années de ça, ça date maintenant, voilà, je faisais du babysitting pour financer les études quand j'étais à la fac, et voilà, je gardais les enfants d'un couple de chrétiens voilà, qui travaillaient assez bien, ils avaient tous les deux de très bons postes en région parisienne, et les enfants, voilà, moi je m'étais dit, ils m'ont pris pour garder les enfants juste le soir, mais en fait, c'était pas que ça, je devais vraiment remplacer les parents. Il n'y avait pas d'éducation. Du coup, ça a été très très compliqué. Les enfants étaient, ils avaient quand même 4-5 ans. Donc, et puis moi, voilà, c'était pas mes enfants quand même. Mais j'ai dû apprendre. Et ce qui est terrible, c'est que les parents, focalisés chacun en plus de leur côté sur leur carrière respective, disaient, mais je travaille pour mes enfants. Si je fais ça, c'est pour mes enfants. Et du coup, ils ne vivaient pas l'instant T. Ils oubliaient d'être parents. Et moi, j'ai trouvé ça assez terrible. J'ai pu leur en parler. Mais le travail avait été tellement ancré dans leur manière de fonctionner que c'était impossible de faire autrement. Aujourd'hui, malheureusement, voilà, ils sont divorcés d'ailleurs. C'est pour moi, quand ils m'ont annoncé, c'était même pas une surprise. Et les enfants, ce qu'ils avaient besoin, et ce qu'ils me disaient d'ailleurs, ils m'ont dit, David, nous, ce qu'on a besoin, c'est de passer du temps. Toi, tu passes du temps avec nous. Toi, tu nous aimes. Papa, maman, ils nous aiment pas. Ils peuvent m'offrir tous les cadeaux qu'ils veulent, parce que, ouais, ils étaient gâtés, hein. Mais, quand on est enfant, on a besoin d'autre chose. Mais ici, c'est l'obsession du travail qui prend la place et qui nous mène à la ruine. On prétend faire cela pour les autres, pour nos familles, pour nos conjoints, nos enfants, mais quelque part, cette recherche de la vie meilleure, en réalité, nous le faisons pour nous-mêmes. On se ment, comme le paresseux se ment. Pour renforcer notre estime de nous-mêmes quelque part. Et cela peut donner d'ailleurs lieu à un cercle vicieux. On travaille un peu trop, si bien que les relations avec nos proches perdent en intensité ou elles sont abîmées. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Pour fuir cela, on investit encore plus dans le travail. Où l'on trouve plus de satisfaction et où on fuit finalement quelque part les problèmes à la maison. Et les relations deviennent plus tendues. Quelque part, on sait que ça n'arrange rien, mais on fait la politique de l'autruche. Sauf que ça avance pas très loin. Au lieu de se confronter aux problèmes, de pouvoir échanger, parler, on s'immerge totalement dans le travail, on se perd dans le travail. Ce travail, du coup, devient une idole. Prend une place qu'il ne devrait pas avoir, jusqu'au moment où une crise majeure survient. Et tout d'un coup, on se réveille, lorsque le mariage bat de l'aile ou que les enfants tournent mal. Mais là, c'est déjà trop tard. Comme le paresseux qui se réveille alors que la misère est présente. Certains hommes, certaines femmes passent des heures à bricoler ou à jardiner, et voir des femmes même nettoient exagérément plutôt que d'affronter les relations difficiles qu'ils vivent chez eux. Certains hommes vont se perdre dans leurs loisirs ou dans leur travail propre pour fuir les responsabilités qui leur reviennent. Mais il s'agit en tant que chrétien de ne pas fuir, mais de parler. De se remettre dans les mains du Seigneur, de demander à Dieu la sagesse et la force pour pouvoir affronter quelque part nos manques, pour que lui puisse faire son œuvre. Le danger est encore plus fort dans l'activité professionnelle, puisqu'on part de chez soi. Et du coup, ça peut être facilement un moyen de fuite. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé, hein. Moi ça m'est déjà arrivé, hein. Ça m'est déjà arrivé, et de me dire, voilà, je fuis à travers le travail, et même en tant que pasteur, hein. Là je me confesse là avec vous, et de me dire des fois quand c'est trop compliqué, allez, je vais servir Dieu. Et au fond de moi-même, il y a Dieu qui me travaille, il me dit, attends, toi tu fais quoi là? Tu fais quoi là? À qui tu mens? Et il s'agit pour nous ici d'être authentiques devant le Seigneur. Parce que Dieu nous demandera des comptes. Ça va ? Bon, ça va, c'est pas trop dur, hein. Bon, c'est pas moi, j'explique la parole, hein. Il n'y a pas de... À nous, du coup, d'être vigilants. La Bible appelle cela de la folie, d'ailleurs, sur le passage de la parabole. C'est assez flagrant. L'homme fait des projets et Dieu lui dit ce soir même, tu seras appelé. Ce soir même, tu meurs. Du coup, tout ce que tu auras fait, à quoi ça aura servi? Et Jésus résume bien avec ce passage dans le « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» À nous de savoir être équilibrés, comme l'a exprimé d'ailleurs le roi Salomon dans Ecclésiaste chapitre 2, et je vais conclure avec ce passage, j'ai mis le texte, je crois, Audrey. « En effet, un homme peut travailler avec sagesse, savoir-faire et succès. Il doit laisser le produit de son travail à un homme qui ne s'est donné aucune peine pour cela. » Cela aussi, c'est de la fumée, c'est dérisoire. Et c'est un grand malheur. Oui, que retire l'homme de tout son travail et des préoccupations de son cœur, alors qu'il se donne tant de peine pour cela sous le soleil. Ses journées ne sont toutes que souffrances et son activité n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne connaît pas le repos. Cela aussi, c'est de la fumée. Le terme qui est employé ici, c'est un terme, c'est dérisoire. C'est volatile. Une fois qu'on a dit tout ça, on va se dire, mais du coup, est-ce que ça veut dire que le travail ne sert à rien? Non, pas du tout. On vient de rappeler la vocation de Dieu pour le travail. Mais que ici, le travail, ce n'est pas non plus... ce n'est pas le tout. Et même si Dieu nous appelle à travailler, il s'agit pour nous d'être équilibrés. Dieu nous a donné comme vocation de travailler, et il l'a imposé d'ailleurs, on vient de le voir, la semaine dernière et même aujourd'hui, il a imposé ce travail aux hommes pour leur propre bien, pour qu'ils ne soient pas oisifs. Et bon, je n'ai pas pris de passage ce matin, mais dans la parole de Dieu, on a des passages d'hommes qui sont oisifs, qui ne travaillent pas et où le péché va rentrer. Le roi David, c'est comme ça que ça va commencer. Il fait pas son travail, il va pas à la guerre, il reste dans son palais, il est oisif et ses pensées vont ailleurs. Comment ça se termine? Adultère, meurtre et une famille complètement brisée. Dieu nous a donné un travail, c'est pour une raison. Et ici, il nous demande pas de discuter, mais de faire. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Fuir ou négliger le travail, c'est désobéir à Dieu. La Bible aussi dénonce la paresse, sans l'ombre d'un doute. Et on voit dans la parole de Dieu des reproches, des exhortations adressées aux paresseux. Mais l'homme ne doit pas non plus tomber dans l'addiction au travail, qui dévore l'homme tout autant que la paresse. Puisque cette addiction au travail ne rend pas plus heureux et accompli. Le travail ici n'est pas le but de la vie. Il ne doit pas du coup nous faire oublier notre prochain qui souffre à côté de moi et leur relation que nous devons à Dieu et aux autres. C'est ça qui fonde notre vie. Notre travail finalement bâti sur notre propre vie, et le travail qui est le centre de la vie, l'Ecclésiaste va en parler, il va dire, ce n'est que fumée. À nous, du coup, d'être vigilants et d'être plein d'équilibre, de tomber ni dans la paresse, ni dans l'addiction au travail, mais à travailler de tout notre cœur, et on verra la semaine prochaine comment. Amen.